10 septembre. Pourquoi sommes-nous irréfléchis? Le penseur élabore ses pensées à partir de l'habitude, de la répétition, de l'imitation, ce qui n'aboutit qu'à l'ignorance et à la souffrance. L'habitude n'est-elle pas de l'irréflexion? La perception lucide suscite l'ordre, mais elle n'engendre aucune habitude. Les tendances persistantes n'aboutissent qu'à l'irréflexion, à l'inconséquence. Pourquoi sommes-nous irréfléchis? Parce que penser est douloureux. Cela crée des perturbations, suscite des oppositions. Cela peut nous amener à agir à l'encontre des schémas établis. Alors que penser et ressentir de façon large et ample, exercer une lucidité sans choix ni exclusive, voilà qui peut nous entraîner jusqu'à des profondeurs inconnues. Or, l'esprit est rebelle à l'inconnu. C'est pourquoi il passe du connu au connu, d'une habitude à une autre habitude, d'un schéma à un autre. Ce type d'esprit n'abandonne jamais le connu pour aller à la découverte de l'inconnu. Se rendant compte de la douleur qui va de pair avec la pensée, le penseur, à force d'imitation, d'habitude, finit par perdre le fil de ses pensées. Ayant peur de penser, il crée ce schéma de comportement irréfléchi. Comme le penseur a peur, ses actions naissent de la peur. Il les regarde alors et s'efforce de les changer. Le penseur a peur de ses propres créations. Mais l'acte et celui qui le fait sont identiques. Le penseur a donc peur de lui-même. Le penseur est la peur même. Il est la cause de l'ignorance, de la souffrance. Le penseur peut se diviser en de multiples catégories de pensées, mais la pensée et le penseur ne font toujours qu'un. Le penseur et les efforts qu'il fait afin d'être, de devenir, sont la cause même du conflit et de la confusion. Septembre. Le penseur est la pensée. N'est-il pas indispensable de comprendre celui qui pense, accomplit ou agit, le penseur, le faiseur, l'acteur, puisque sa pensée, son geste, son action sont indissociables de lui? Le penseur est la pensée. Le faiseur est ce qu'il fait. L'acteur est l'action. C'est dans sa pensée que se révèle le penseur. Le penseur, par ses propres actions, est l'auteur de son propre malheur, de son ignorance, de ses conflits. Le peintre nous brosse ce tableau du bonheur passager, de la souffrance, de la confusion. Pourquoi produit-il cette image pénible? Il est évident que c'est cela le problème à étudier, comprendre et dissiper. Pourquoi le penseur conçoit-il ses pensées qui sont la source de toutes ses actions? La voilà, la muraille de roc à laquelle on se heurte, n'est-ce pas? Si le penseur peut se transcender, alors tout conflit cessera. Et pour se transcender, il faut qu'il se connaisse. Ce qui est connu et compris, ce qui est réalisé et achevé, ne se répète pas. C'est la répétition qui donne une continuité au penseur. Septembre. La liberté de penser n'existe pas. Je ne sais pas s'il est clair pour nous tous que nous passons notre vie dans un état de contradiction. Nous parlons de paix et nous préparons la guerre. Nous parlons de non-violence et nous sommes fondamentalement violents. Nous parlons de bonté et nous ne sommes pas bons. Nous parlons d'amour et nous sommes dévorés par l'ambition. Imbu d'un esprit de compétition, d'efficacité sans scrupules. Il y a donc contradiction. Toute action née de la contradiction n'aboutit qu'à la frustration et à de nouvelles contradictions. C'est que, voyez-vous, toute pensée n'est que fragmentaire. Elle ne peut jamais être totale. La pensée est la réponse de la mémoire, et la mémoire est toujours fragmentaire car la mémoire est le résultat de l'expérience vécue. La pensée est donc la réaction d'un esprit qui est conditionné par l'expérience. toute forme de pensée, d'expérience, de savoir est inévitablement parcellaire. La pensée est donc impuissante à résoudre les nombreux problèmes qui sont les nôtres. Vous avez beau essayer de raisonner sur ces problèmes de manière saine et logique, il vous suffira d'observer votre propre esprit pour constater que votre mode de pensée est conditionné par votre condition sociale, par l'environnement culturel dans lequel vous êtes né, par les aliments que vous consommez, par le climat sous lequel vous vivez, par les journaux que vous lisez, par les pressions et les influences subies dans votre vie quotidienne. Nous devons donc comprendre de façon très claire que notre pensée, c'est la réponse de la mémoire, et que la mémoire fonctionne mécaniquement. Le savoir sera toujours incomplet, et toute pensée issue du savoir est limitée, parcellaire, et n'est jamais libre. La liberté de penser n'existe pas, mais nous pouvons commencer à découvrir une liberté qui n'est pas un processus de pensée et dans laquelle l'esprit a simplement conscience de tous ses conflits et de toutes les influences auxquelles il se heurte. Septembre. La pensée sans le penseur. Le singe dans l'arbre a faim, puis lui vient le désir de cueillir un fruit ou une noix. L'action vient d'abord, puis l'idée que l'on aurait intérêt à stocker la nourriture. Ou, pour exprimer les choses différemment, qu'est-ce qui vient en premier, l'action ou celui qui exécute l'action? Sans l'action, y a-t-il un acteur? Comprenez-vous? C'est cela que nous nous demandons toujours. Qui est-ce qui voit? Qui est l'observateur? Le penseur est-il distinct de ses pensées? L'observateur distinct de ce qu'il observe? Le sujet de l'expérience distinct de l'expérience? Celui qui agit distinct de l'action? Mais si vous examinez réellement le processus très attentivement, de près et intelligemment, vous verrez qu'il y a toujours d'abord l'action et que cette action qui a une fin en vue crée l'acteur. Est-ce que vous suivez? Si l'action a un objectif en vue, la réalisation de cet objectif engendre l'acteur. Si vous pensez très clairement et sans préjugés, sans conformisme, sans essayer de convaincre qui que ce soit, sans objectif en vue, en cet acte même de penser, le penseur est absent. Il n'y a que l'acte de penser. Ce n'est que lorsque vous visez en pensant à la réalisation d'un but que vous devenez important, et non la pensée. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué cela. C'est en réalité une chose importante à découvrir, parce que de là, nous saurons comment agir. Si le penseur précède la pensée, alors il est plus important que la pensée. Or, toutes les philosophies, les coutumes et les activités de notre civilisation actuelle sont fondées sur ce postulat. Mais si c'est la pensée qui vient en premier, alors la pensée est plus importante que le penseur. Septembre. La perception immédiate. Il n'y a pour moi qu'une seule chose qui compte, la perception, c'est-à-dire le fait de percevoir si une chose est vraie ou fausse de manière immédiate. C'est cette perception immédiate de ce qui est faux et de ce qui est vrai qui constitue le facteur essentiel, et non l'intellect, avec ses raisonnements fondés sur son habileté, son savoir, ses engagements. Il vous est certainement arrivé de temps à autre de voir immédiatement la vérité d'une chose. Par exemple, cette vérité qui est que nous ne devons absolument appartenir à rien. C'est cela, la perception. Voir la vérité d'une chose immédiatement, sans analyse, sans raisonnement, sans aucune de toutes ces choses que l'intellect crée, à seule fin de différer la perception. C'est tout à fait différent de l'intuition. Mot dont nous faisons un usage facile, trop facile. Pour moi, rien ne compte que cette perception directe, et non le raisonnement, le calcul, l'analyse. Vous devez être capable d'analyser. Pour raisonner, vous devez avoir l'esprit bien fait, incisif, Mais l'esprit qui se limite à la raison et à l'analyse est incapable de percevoir ce qu'est la vérité. Si vous êtes en communion avec vous-même, vous saurez pourquoi vous appartenez, pourquoi vous vous êtes engagé. Et si vous poussez plus loin, vous verrez l'esclavage, l'amputation de la liberté, l'absence de dignité humaine qu'entraîne cet engagement. Lorsque vous percevez cela instantanément, vous êtes libre. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour être libre. Voilà pourquoi la perception est essentielle. September 15. Une compréhension d'instant en instant. La compréhension fondamentale de soi-même n'est pas le fruit d'une accumulation de connaissances ou d'expériences. Celle-ci s'appuie sur la mémoire, tandis que la connaissance de soi est d'instant en instant. Si nous ne faisons qu'accumuler des données sur le moi, ces informations mêmes nous empêchent de nous comprendre plus profondément, car cet entassement de savoir et d'expérience devient un foyer où la pensée se concentre et a son être. September 16. Comprenez le processus de votre pensée. Supposez que vous n'ayez jamais lu aucun livre de religion ou de psychologie et que vous deviez trouver le sens, la signification de la vie. Comment vous y prendriez-vous? Supposez qu'il n'y ait pas de maître, pas de religion organisée, ni Bouddha, ni Christ, et que vous ayez à commencer depuis le commencement. Comment vous y prendriez-vous? Tout d'abord, il vous faudrait comprendre votre processus de pensée, n'est-ce pas? Et ne pas vous projeter, vous et vos pensées, dans le futur et créer un Dieu qui vous fasse plaisir. Ce serait trop enfantin. Donc, tout d'abord, il vous faudrait comprendre le processus de votre pensée. Et c'est la seule façon de découvrir quelque chose de neuf, ne croyez-vous pas? Lorsque nous disons que le savoir et les connaissances sont un obstacle, une gêne, nous ne parlons pas des connaissances techniques, savoir conduire une voiture, faire fonctionner une machine, etc. ni de l'efficience qu'elles confèrent. Nous pensons à toute autre chose. À ce sens de félicité créative qu'aucune somme de savoir ou de connaissances ne donnera jamais. Être créatif, dans le vrai sens de ce mot, c'est être libéré du passé, d'instant en instant. Car c'est le passé qui constamment projette son ombre sur le présent. Nous accrocher à des informations, aux expériences d'autrui, à ce qu'un tel a dit, quelque grand qu'il soit, et essayer de conformer nos actes à ses pensées, tout cela est du monde des connaissances. Mais pour découvrir du neuf, on doit partir tout seul, complètement démuni, surtout de connaissances. Car il est très facile, au moyen de connaissances et de croyances, d'avoir des expériences. Mais celles-ci, n'étant que des produits de projection personnelle, sont irréelles et fausses.